Bonjour à tous, bienvenue sur RMC Pêche Pêche, le podcast Pêche Pêche Pêche. Déjà l'émission numéro 9. Alors, élu Casar d'Or du meilleur podcast 2026 par les équipes de Julien Casar. Alors, devant Estelle Denis et puis l'émission de Fred Hermel. Donc, c'est la classe. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Nos invités aujourd'hui, alors, il troque sa robe d'avocat pour des waders. C'est un ténor du barreau, Avi Vuitton. Bonjour, Avi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite, il est carpiste la nuit et il est député de le jour de la première circonscription de la Loire, Pierrick Courbon. Salut Pierrick.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et notre trèfle percheron avec nous aujourd'hui, fidèle au poste. Bonjour Arnaud, ça va bien?
Salut JB, j'aime à tous, ça va bien, ouais.
Ouais, en France?
Bah en France pour le moment, puis pour très longtemps là.
Bon, alors on va voir ça au sommaire. Donc l'équipe de France de pêche à la mouche, bientôt une marque déposée. La pêche pour les plus démunis, dans le débat de l'heure des pêcheurs. Messieurs, revendez vos bateaux et vos flottes tubes. La nouvelle tendance, c'est le street fishing. Ensuite, nous irons en direction la Corse dans la destination pêche avec Morgane Calu pour nous parler de l'île de beauté. Résultat du bluff de Sylvain. Et puis ça sera au tour d'Arnaud de nous trouver un bluff. Il est imprenable au bluff, Arnaud. Ensuite, dans l'atelier, on va parler de la pêche à gratter cette saison. Et puis, Benoît, un auditeur, sera au bout du fil. Allez, c'est parti. Alors, notre premier invité aujourd'hui, on a un avocat spécialisé dans le droit du travail, Avi. Ça va bien?
Ça va, merci.
Alors, Avi, c'est 1 800 000 abonnés sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est à peu près ça. J'aimerais bien prendre autant de poissons que j'ai d'abonnés.
Mais c'est colossal, en fait. C'est sur TikTok, YouTube...
Oui, j'interviens sur toutes les plateformes et je fais des vidéos pour aider les salariés à connaître leurs droits et dans les situations de crise à négocier leur départ.
Donc Avi, c'est l'avocat qui fait trembler les grands groupes et tous les patrons.
C'est à peu près ça. Je ne fais pas encore trembler les poissons, malheureusement.
Et alors, donc du coup, pêcheur?
Oui.
Alors pêcheur à quoi? Alors moi, on a des amis en commun et je sais que tu es un pêcheur mais qui pêche tout ce qui nage. Alors, pas vraiment de poisson de prédilection.
Alors, soit je pêche en ville, je fais du street fishing, on va en parler tout à l'heure. Donc essentiellement du prédateur, du carnassier, perche, silure, brochet, cendre. Mais vous savez ce que c'est, parfois on peut tomber aussi sur des carpes, des barbeaux en cherchant par exemple le silure. Et puis, quand je me réserve un moment à moi, je vais dans mon petit paradis, c'est en Seine-et-Marne. C'est ce domaine privé qui s'appelle les étangs de la Bassée, où il y a 6 ou 7 étangs, je ne compte plus, dans lesquels on trouve essentiellement des brochets métrés, mais on les trouve, hein, ce n'est pas une légende, ils y sont, et il y en a beaucoup. Et aussi, on peut trouver des black bass. C'est quand même rare en région parisienne de trouver du black bass, avec des spécimens qui peuvent faire, tenez-vous bien, 60 cm.
Alors moi, je sais que... quand tu te réunis avec tes collaborateurs pour préparer des plaidoiries et ce genre de choses pour travailler des très très gros dossiers, tu fais souvent des espèces de petits camps comme ça, des base camps avec tes équipes et il faut toujours qu'il y ait un plan d'eau ou une rivière à côté. Mais ça te vient d'où cette passion pour la pêche alors?
Je suis mordu depuis que j'ai 11 ans. Voilà.
D'accord.
Alors, uniquement la pêche en eau douce, je pense que c'est deux mondes différents, la pêche en eau douce et la pêche en mer. La pêche en mer ne m'intéresse pas trop. Bon, je m'amuse des fois à prendre de la sèche ou à faire du snorkeling, à attraper des poulpes. Bon, voilà. Mais ce qui me passionne, c'est plutôt la pêche en eau douce. J'ai tout fait. J'ai fait de la pêche à la ligne, pêche au cou. J'ai fait un petit peu de pêche à la carpe. Mais là, maintenant, je suis vraiment sur la pêche au carnassier. Ouais.
D'accord. Bon, on verra ça après avec notamment le street fishing. Pierrick, ça va bien?
Ça va très bien.
Alors Pierrick, député dans la Loire, secrétaire du groupe d'études de pêche et chasse, c'est ça?
Ouais.
Alors Pierrick, moi je le connais depuis très très longtemps et pour les carpistes de longue date, Pierrick était à l'origine à l'époque de la labouillette.com, le fameux site qui a réuni tous les carpistes.
Un site référence.
Voilà, ouais. Dans les années 90-2000 avec Romaric Petit, Bruno Médou entre autres. Donc Pierrick, comment on se retrouve des berges et d'un bivy au siège de l'Assemblée nationale et notamment dans ce groupe d'études chasse-pêche?
Alors moi, je suis pêcheur depuis que je suis tout petit. Voilà, c'est une vraie passion. Et puis, il s'avère que voilà, le hasard des rencontres de la vie a fait que je me suis engagé en politique et jusqu'à exercer d'importantes responsabilités en tant que député. Et aujourd'hui, en tant que député, je continue de défendre et de porter ce en quoi je crois, ce qui m'est cher, et notamment la défense de la pêche au sein du groupe d'études Chasse et pêche à l'Assemblée nationale, où j'essaye de faire entendre la voix des pêcheurs. Parce que voilà, je dis souvent aussi, les pêcheurs ont du mal à peser dans le débat public, dans le débat institutionnel, en particulier par rapport aux chasseurs qui, historiquement, sont beaucoup plus organisés.
Oui, ils ont des lobbies.
Un poids institutionnel beaucoup plus important. Et donc, moi, j'essaye modestement de contribuer à faire en sorte qu'on entende enfin les pêcheurs.
Alors, ce groupe chasse-pêche à l'Assemblée, il fait quoi ? Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'ils font du lobby ? Vous avez des réunions ? Vous intervenez dans quel genre de vous intervenez dans des commissions ?
Alors, en fait, à l'Assemblée nationale, au-delà de ce qu'on voit à la télévision, il y a beaucoup d'instances de travail et notamment des instances où on travaille entre députés de toute sensibilité politique. Ce sont des instances transpartisanes. Et effectivement, au sein de ce groupe d'études sur la pêche et la chasse, on est, je crois, à peu près 70 députés. On doit être une vingtaine, une trentaine de pêcheurs et on se mobilise sur un certain nombre de sujets qui concernent très directement la vie halieutique, le monde de la pêche. Et pour donner quelques exemples, très récemment, on a parlé de la loi d'urgence agricole et la question du partage de l'eau, des usages de l'eau et la question de la place des usages de loisirs et des pêcheurs dans la question de la gestion de l'eau, dont on sait que ça va être l'un des enjeux des années et des décennies qui viennent.
Notamment cette taxe, on l'a vu sur les réseaux, quand j'ai posé la question et que j'avais annoncé cette taxe que nous payons à l'agence de l'eau de 8 euros pour utiliser les rivières et les lacs et que les autres utilisateurs, les kayakistes et machin, ne payent pas cette redevance, ça a fait débat et ça a fait parler. Et toi, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que nous, les pêcheurs, on est quand même assez bien représenté et assez bien défendu par rapport notamment, on a les chasseurs en exemple.
Je rejoins Pierrick. On entend très souvent que les chasseurs pèsent beaucoup plus que nous, les pêcheurs.
On voit, ils ont des pubs à la télé.
Ils ont des pubs, ils sont forts. Et je pense qu'en plus, en termes de nombre, on est bien plus nombreux. Bien sûr. Il y a bien plus de pêcheurs en France qui ne sont pas capables de... ils ne sont pas capables de se fédérer et de se faire entendre. Donc, je suis ravi d'entendre ça parce que je ne savais pas qu'il y avait un groupe comme ça, l'Assemblée nationale, transpartisan en plus, donc qui touche un petit peu tout le monde, qui est vraiment au service de la pêche. Je pense qu'on a besoin de ça.
Pour nous, on a une émission sur RMC, pas eux. Voilà.
Alors nous, on a une émission sur AMC, bien sûr, mais ça fait partie, ça va dans le bon sens. Mais je pense qu'on a besoin de ça pour défendre notre place sur les rivières, comme tu dis, vis-à-vis de plein de monde, les kayakistes, les pêcheurs professionnels. Enfin, il y a plein de choses à voir là-dedans, pour qu'on puisse défendre notre loisir, notre bonne condition.
Toi, Avic, qui est dans le milieu de la justice et des palais, est-ce que tu penses que la pêche, les pêcheurs, dans notre société, est-ce qu'on a vraiment un poids malgré qu'on soit plus nombreux que les joueurs de foot, plus nombreux que pas mal d'autres loisirs ? Est-ce que ça t'arrive, toi, dans les palais, la salle des pas perdus, de dire je suis pêcheur en étant un des plus grands ténors du barreau sur Paris ?
Alors, pour être honnête, effectivement, comme je suis avocat en droit du travail, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des affaires qui touchent au monde de la pêche, aux intérêts des pêcheurs. Mais comme tout citoyen, ce que je vois, c'est une société qui, au nom du bien-être animal, est en train de sacrifier le bien-être humain. On en vient à des aberrations où on va plus pouvoir exercer nos passions, nos loisirs, au nom du bien-être animal. Il y a quand même des élus qui ont demandé à ce que la pêche soit interdite à Paris, la commune de Paris, avec différents arguments que
notamment
je reprendrai pas
ici. Notamment une annulation d'un concours pour jeunes et ce genre de choses.
Donc je veux dire, comment faire grandir nos enfants dans une société où on ne peut plus les initier à des traditions ancestrales, à des passions familiales, tout ça au nom d'une conception du bien-être animal, d'une conception assez fanatique du bien-être animal. C'est assez inquiétant.
Bon, on est chaud, on attaque tout de suite la pêche aux infos. Alors messieurs, la pêche aux infos, c'est on s'en fout pas. On va débattre un peu des actualités un peu récentes et on va commencer tout de suite à Vertoux. C'est dans le Pays de Loire. C'est juste un petit focus sur cette action que j'ai vue sur la télévision, sur France Télévisions. C'est la fédération et l'association La Cloche, donc la fédération de Pays de Loire, qui organise des initiatives pêche avec des SDF et des personnes en grande difficulté. On s'en fout pas, t'en penses quoi, Avi ?
C'est beau, écoutez, si on peut leur offrir ces quelques instants de bonheur, c'est très beau.
Arnaud ?
Ouais, je trouve ça super, je trouve que c'est une belle initiative.
C'est pas bête, hein ?
En coulisses, je trouvais ça vachement bien, quoi.
Non, on s'en fout pas, c'est bien qu'il y ait un certain nombre d'initiatives qui montrent que la pêche doit rester un loisir ou un sport populaire, accessible, et y compris vis-à-vis des publics les plus empêchés ou les plus éloignés de la pratique sportive. Et vu que c'est une activité qui est très saine, qu'elle soit le plus largement partagée possible, ça va dans le bon sens.
D'accord. Alors, autre info chaude, c'est cette équipe de France de pêche à la mouche qui est... Voilà, ça va être la recordman multititrée de tous les titres. Je pense qu'on va même bientôt battre d'autres disciplines, peut-être même voir battre le judo, qui va presque déposer un nom, son nom, le Team France, pour justement faire des collaborations avec des marques et puis ainsi financer les nombreux championnats qu'ils font à travers le monde. Et pour ça, messieurs, on a un septuple champion de France de pêche à la mouche. J'en oublie peut-être, il est champion du monde. C'est un peu la cheville ouvrière de cette équipe de France, Sébastien Delcor. Salut Seb, tu vas bien ?
Salut, ouais, ça va nickel.
Alors on est honoré de t'avoir parmi nous, sportif de haut niveau, on va dire c'est la tête pensante de toute cette équipe et de toute cette synergie, parce que il y a aussi les jeunes, il y a aussi les vétérans, il y a aussi les féminines qu'on a déjà eu dans l'émission. Michel Folswear, qui est le président de la FFPS Mouche, m'a dit que c'est le pilier bien trop discret de cette réussite. C'est bien ça ?
Bah écoute, je sais pas si pilier, oui, puisque ça fait une dizaine d'années que je suis le capitaine de cette équipe.
Et d'où vous vient cette
que celle de l'équipe de France.
Et d'où vous vient alors cette idée de réaliser une, on va dire une un peu comme une marque déposée Team France, et puis de lancer des collaborations avec des marques de cannes, des marques de vêtements.
Bah en fait c'est très très simple. Les championnats internationaux, il faut savoir que c'est assez coûteux. On part environ 3 semaines chaque fois avec 15
jours. Là, vous allez aux États-Unis.
15 jours, on va aux États-Unis. Celui-là, particulièrement, il coûte assez cher. Donc, on a 15 jours d'entraînement et après une semaine de compétition. Il faut prendre un guide, il faut louer des bateaux pour les parties bateaux pour s'entraîner, le voyage, etc. Donc, on est sur des budgets qui sont toujours entre 30 et pour cette année, 50 000 euros, par exemple. Et il y a une dizaine d'années encore en arrière, on avait des financements d'État. Et aujourd'hui, on a été un peu lâché là-dessus. Et du coup, on est obligé de se débrouiller pour trouver nous-mêmes des financements. Donc, on a un certain
nombre de mécènes. C'est pareil, si tu veux, tu peux aller servir dans les boîtes et tout.
On a un partenariat avec un voyagiste avec lequel on fait des stages qui nous permettent de financer en partie. Et l'idée en fait de cette marque matérielle qui s'appelle Génération World Series, c'était simplement en fait d'arriver à avoir le matériel que nous on souhaitait, c'est-à-dire en l'occurrence des cannes, puisque nous on est plusieurs de l'équipe à trafiquer nos cannes, à les monter, à adapter certaines choses. Donc là, c'était l'occasion ou jamais d'avoir un matériel hyper adapté et en même temps d'avoir une rétribution sur les cannes vendues qui venait compléter ce budget pour l'équipe, quoi.
D'accord. Et ça va s'appliquer aussi à toutes les autres équipes, pas forcément les seniors.
Alors là, c'est une petite entreprise qu'on est en train de créer. Donc pour l'instant, c'est suffisamment compliqué de le faire au niveau de l'équipement. Donc non, c'est que l'équipe monde qui a lancé ça pour l'instant, et la marque appartient à l'équipe monde. Et les bénéfices D'accord. vont à l'équipe monde.
Donc voilà. Là, j'ai vu, il y a un partenariat avec Native, vous allez faire aussi des cannes avec GMC pour le réservoir, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, en fait, vous allez, ouais.
Alors pour l'instant, il y a un partenariat avec Native qui, lui, est effectif. Donc c'est le seul fabricant de cannes qui est français, hein, puisqu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus personne qui tourne des blancs. Quand je dis tourner des planques, c'est mettre du carbone autour d'un mandrin et après arriver jusqu'à la cacane finie avec le montage des anneaux, etc. Et donc Native, c'est une société qui a créé cette usine, en fait, cette usine, ça reste de l'artisanat, en Ariège.
Un atelier, ouais.
Un atelier, ouais, il y a 2 ans. Et c'est vrai que quand on a eu cette idée, on a été les visiter et on les connaissait pas bien, on ne savait pas ce qu'ils étaient capables de faire. On a vu de suite beaucoup de coûts potentiels. Et là, avec le développement qu'on est en train de faire avec eux, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le soin de faire les choses comme il faut. Il y a un tas d'allers-retours, des éléments de canne comme à la poubelle pour arriver à vraiment ce qu'on veut. Et là, pour le coup, on est hyper satisfait des premières cannes qu'on a validées. Quoi. Voilà.
Alors, comment ça se déroule une manche comme ça, un championnat du monde, en fait? Il y a combien de nations? Vous vous entraînez combien de temps? C'est par équipe, c'est combien de pêcheurs sur les parcours? Je sais qu'il y a un tirage au sort aussi.
Ouais, bah écoute, je vais essayer d'être le plus simple possible. On est 8 dans l'équipe, avec 5 compétiteurs et un remplaçant. Donc, nous, on arrive en général 15 jours avant pour faire une quinzaine de jours d'entraînement. Alors, en dessous des secteurs, puisqu'il y a 5 secteurs, avec des secteurs rivières et des secteurs en barque dérivante sur des lacs. Donc, on va pêcher sur des secteurs qui ressemblent le plus possible au secteur de compétition. Pendant 15 jours, on définit une stratégie qu'on partage, qu'on a fait. Et ensuite, arrivé au moment de compétition du championnat, il se fait sur 5 jours. Donc, il y a dans chaque groupe un compétiteur de chaque pays. Et il y a une trentaine de pays dans un championnat du monde. Donc, dans ton groupe, tu secteur donné, mettons une rivière sur la première journée, où tu vas pêcher pendant 4 heures avec un contrôleur qui contrôle et qui mesure tes poissons, qui vérifie que tu respectes.
Et ensuite, c'est au point place, c'est ça? C'est au point place.
Ouais, tu es classé par rapport au nombre de poissons et à leur taille, par rapport aux 29 autres compétiteurs des autres pays. Et le lendemain, tu vas sur un secteur qu'un autre groupe a pêché la veille, et etc. Tu tournes tous les jours. Et le classement d'un championnat du monde, c'est l'addition des classements de tous les jours, donc individuels. Et le classement d'équipe, c'est l'addition des classements individuels, tout simplement.
Ok, eh ben, on va vous souhaiter une méga bonne chance pour les championnats du monde. Donc, je sais que les filles sont en Norvège, vous êtes aux USA, c'est ça, fin août, début septembre?
Ouais, en septembre.
Voilà, je sais qu'il y a même un objectif de nombre de médailles cette année pour les équipes de France. Alors juste une petite dernière, qu'est-ce qui fait que vous êtes indétrônable et qu'on vous êtes sur le toit du monde? Est-ce que c'est une synergie? Parce que là, on est en pleine Coupe du Monde de foot, on est tous en train de se demander est-ce que l'équipe de France va performer? On a des stars, on a les talents, mais est-ce que la synergie va se prendre? Est-ce que c'est une histoire de talent? Est-ce que c'est une histoire d'équipe? On connaît bien Grégoire, Pierrot, c'est quoi? Ou c'est toi peut-être? C'est toi qui coordonne tout ça?
Non, mais il y a un peu tout. Je pense qu'on a la chance d'avoir des rivières assez difficiles et assez variées. Ce qui te permet de travailler et d'affiner vraiment toutes les techniques. Et en sens que dans cette équipe, on est à peu près les mêmes depuis de nombreuses années, avec un élément qui peut changer de temps en temps. Et donc, on partage énormément. Et au début, ça a été qui a amené un peu plus les autres vers le haut. Et puis maintenant, tout le monde partage et fait avancer les autres. Quoi. Et alors, ce qui est un peu délicat dans notre vie, c'est que c'est un sport qui est individuel et qui devient collectif dans ces championnats.
C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau.
Il faut l'adapter chaque fois que tu te trouves de France. Quoi. Voilà.
Ok, bah, c'est top. Et bah, écoute, un grand merci à toi. On va vous souhaiter... tout le meilleur pour ces futurs mondiaux. Encore une médaille d'or, j'en suis sûr. À bientôt, Seb.
Merci beaucoup. À bientôt.
Allez, maintenant, on attaque tout de suite l'heure des pêcheurs. Alors, dans le débat cette semaine, on va parler d'une nouvelle tendance, le street fishing. Pourquoi autant d'adeptes? Pourquoi si populaire chez les jeunes? Et les moins jeunes, hein,
C'est gentil, merci Jean-Baptiste.
Et puis, pour parler de ça, on va avoir Stan. Salut Stan, qui est guide de pêche dans la capitale. Stan Valotex, ça va bien?
Bonjour à tous, ça va?
Alors, Stan, je vois que tu es au bord de l'eau, il fait beau, c'est ça, tu es en animation avec des jeunes?
Ouais, tout à fait, c'est l'école de pêche, là, on est mercredi après-midi.
Ah, génial, t'es dans quel coin?
Là, je suis dans le 94, là, je suis à Choisy-le-Roi.
D'accord, ok, tu connais Avi?
Oui, les temps de Choisy, j'ai emmené mes enfants faire des stages d'école de pêche, justement, dans cet étang, ouais.
D'accord, mais peut-être avec Stan, non?
Ah, c'était pas avec lui, et puis malheureusement, il y a quand même quelques poissons-chats dans cet étang.
Ah, t'es sur le plan d'eau, toi?
Oui, oui, tout à fait, je suis sur le plan d'eau.
Alors Stan, on profite que tu es avec nous pour parler justement de cette nouvelle mode qui a déjà quelques années, mais qui est bien, bien tenace, qui résiste bien au côté un peu fashion. C'est cette pêche street fishing. Alors forcément, on est à Paris, on est au parfait endroit pour en parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce mouvement, on va dire, est-ce que c'est parisien à la base ou ça vient d'un peu de partout, de toutes les grandes villes de France?
Oh, ça a bien commencé à Paris, on va dire. Quand ça a commencé à devenir à la mode, ça a commencé à Paris avec Fred Misner qui avait vraiment lancé le mouvement.
D'accord.
Et après, comment... bon, ça s'est répandu un peu partout.
Et comment t'expliques ça, que ça soit y a autant d'adeptes et puis surtout au niveau des jeunes, parce que là t'es avec des gamins. Qu'est-ce qui leur plaît?
Déjà, ça va leur faire du bien un petit peu de traîner un petit peu dans la ville, mais sans forcément être enfermés.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir trouver des activités sans forcément aller dans les musées, sans forcément aller au cinéma, sans un écran, quoi. Ils peuvent découvrir un petit peu leur capitale autrement.
C'est aussi un peu, voilà, c'est un peu comme ceux qui font le parcours, en fait, qui font un peu de la gym, on va dire, en milieu urbain, avec le voilà, tout ce qu'il y a autour. Bah, le street, c'est un peu ça, quoi. C'est de la pêche avec ce qu'on a autour. Alors, on a un pêcheur en street avec nous, avec Avi. Qu'est-ce que tu aimes dans ce côté urbain et côté pêche en street?
En fait, il y a une réalité à laquelle on se heurte, c'est que quand on travaille à Paris toute la semaine, mais qu'on est passionné de pêche. On ne peut pas s'absenter toute une journée pour aller à 300 km à la campagne. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez pêcher en semaine, avant d'aller au cabinet ou en sortant du tribunal, c'est le street fishing, c'est pêcher dans la Seine. Alors, en plus, il y a des spots formidables qui sont en plein centre de Paris. Je pense, par exemple, au pied de la cour d'appel de Paris, vous avez le Pont Neuf. Et le Pont Neuf, c'est quand même un hotspot pour le silure, pour aussi la perche en drop shot. On a des spécimens de 35-40 cm qui sont près des piles de pont.
Donc toi, à midi, t'enlèves la robe et tu fais 40 minutes, 30 minutes de street comme ça.
Ah oui.
Complet, quoi. Avec un sandwich.
Soit le matin, soit le soir après le travail. Et effectivement, en une heure de pêche, on peut faire déjà plusieurs espèces. La Seine, dans le centre de Paris, est riche. Je fais des cendres, des perches, des petits brochets. Et puis quand je cherche le silure à la bouillette, parfois je tombe sur des carpes ou des barbeaux. Je peux parfois faire des anguilles. Enfin, il y a une diversité halieutique dans le centre de Paris qui est impressionnante et qui est rassurante. Ça veut dire que la Seine est quand même propre.
Alors, en pleine journée comme ça au palais, qu'est-ce qui te motive à décrocher 45 minutes? C'est qu'est-ce que tu recherches ça dans ce petit décrochement de 40, 30 minutes, une heure où tu descends et tu vas sur la Seine ou sur un plan d'eau parisien?
Alors, vous imaginez bien que la profession d'avocat, c'est une profession à haute tension. Et parfois, il faut savoir se relâcher, ça fait du bien. C'est une condition de mon équilibre, cette passion. Et puis aussi, j'ai remarqué une chose, c'est que justement, quand je ferme les codes de loi, que je ferme les dossiers et que je me mets à pêcher, que je me détends, que je suis concentré sur la capture du poisson, c'est là que tout d'un coup, une solution me vient et que je me dis « Mais oui, c'est ça qu'il faut dans ce dossier pour trouver un accord amiable avec l'entreprise et transiger. »
Donc pendant que tu pêches, tu cogites
Non, je m'efforce de ne pas cogiter, mais ça vient tout seul en fait. C'est un mécanisme du cerveau. un mystère.
On retrouve ça avec les sportifs de haut niveau aussi, hein, qui nous disaient vachement que la pêche, c'était leur moyen de décompresser, de se sortir là, du sport à outrance à tout le temps, que c'était le moment de déconnexion là, qui leur permettait de se ressourcer, d'être plus performant après.
Pierrick, en tant que carpiste, est-ce que tu as déjà osé faire des nuits en scène alors que tu étais au palais Bourbon?
Alors oui, bien avant d'être député, puisque voilà, il y a plus de 15 ans déjà avec Bruno Médou, dont
exactement,
on a parlé,
oui.
Voilà, qui est un peu mon régional de l'étape, on pêchait déjà un petit peu dans la Seine. Et moi, je rejoins tout ce que vous avez dit sur le fait que ça, c'est vraiment une manière de décompresser, voilà, de te retrouver un peu de liberté, de penser à autre chose. Et donc oui, il m'arrive, quand on sort de séance tard le soir, eh bien, d'aller parfois faire une petite nuit en toute discrétion dans la Seine entre deux péniches et de repartir au travail le lendemain matin dès 8h. Voilà. Donc, c'est sportif, c'est fatigant, mais voilà, c'est aussi une manière de trouver un équilibre.
Les députés sont habitués aux nuits blanches.
Mais voilà, c'est ça. Moi, je pensais que les députés passaient leur nuit à débattre à l'Assemblée.
On arrête à minuit maintenant.
Du coup, après, ils enquillent. Stan, pour faire du street fishing, on va dire, si les parents regardent, ou les gens qui regardent le podcast, c'est quoi le matériel de base pour pêcher en street fishing? Puis je suppose que ça ne touche pas que les pêcheurs rollers, on peut aussi faire du street fishing avec une canne, un bouchon et un bout de verre, quoi.
On peut tout faire en street fishing. Comme c'était dit tout à l'heure, la Seine, elle est particulièrement riche. On a quasiment 40 espèces de poissons à chercher.
D'accord.
On en a des nouvelles qui arrivent.
C'est quoi le matériel de base, en fait? Tu conseilles quoi pour les jeunes qui voudraient s'équiper en termes de puissance et de technique?
C'est aussi l'avantage en street, c'est que tu n'as pas besoin d'être super équipé. C'est qu'une petite canne en 5-21, une petite boîte de leurre, une bonne paire de baskets, et ça suffit. Tu es parti, tu vas pêcher dans Paris en mode rapidement, une demi-heure, une heure.
Ouais, ça ne compte pas un budget de fou. C'est peut-être aussi pour ça que c'est aussi on va dire populaire au niveau des jeunes. En plus, je sais qu'en région parisienne, vous aviez fait ça l'année dernière, ça avait été un succès. C'est les after work à Paris. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Ouais, tu t'en occupes?
Oui, c'est moi qui les encadre aussi, les after work de la Fédération de Paris.
Avec Adrien aussi. Ouais, donc c'est ça, c'est le mardi soir, pour donner rendez-vous aux gens, c'est le mardi soir de 17h à 21h et plus si affinité, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On va s'adapter en fonction de leur... Mais c'est ça, et tous les mardis soirs, on se retrouve au bord de l'eau. Et ce qui est génial, c'est qu'on a tous les profils. On va avoir des cadres supérieurs. On a des jeunes, on a des anciens. Tout le monde se retrouve au bord de l'eau.
Et est-ce que la bière, est à 50% aussi? Elle est moins chère, la bière, du coup, en happy hour?
Là, de temps en temps, ouais. De temps en temps, on termine, on finit dans un bar gentiment, on discute. Mais la discussion tombe toujours autour de la pêche, au final.
D'accord, donc c'est bien les mardis soirs, c'est ça? C'est tous les mardis soirs?
Ouais,
c'est génial.
C'est où? C'est à quel endroit?
Alors, on essaye toujours de spot. L'idée, c'est pas toujours faire les mêmes sites. Il y a un groupe WhatsApp qui est mis comme ça... Moi, j'envoie le point de rendez-vous en général 2-3 jours avant.
Et d'accord.
Mais on va y aller en plein centre. On va sur le quai d'Austerlitz, des coins comme ça. On va aller un peu partout.
D'accord. Et vous avez aussi une compétition, c'est le Fishmaster Junior aussi, qui est une compétition street fishing en région parisienne. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Qui vient d'avoir lieu. Eh bien, Stan, on te remercie. On va souhaiter bonne pêche à tes petits stagiaires du jour.
Là, ils sont au taquet, hein. C'est des guerriers. Hein. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, ils sont toujours là.
Bon, on te remercie.
On est plus dérangés qu'eux en général.
Bon après-midi à toi et bon courage.
Merci. Merci à tous. Ciao.
Allez, on quitte tout de suite la capitale pour l'île de beauté, pour une destination pêche insulaire. C'est parti. Alors aujourd'hui dans Destination Pêche, on va parler, on n'est pas très loin des vacances, c'est dans quelques semaines, on va parler d'une destination phare en France, c'est la Corse. Et pour parler de ces deux départements, Morgane Calu, qui est champion du monde justement de street fishing, on reste dans le street fishing 2024. Salut Morgane, tu vas bien?
Salut, bonjour à tous.
Bonjour Morgan.
Ça va très bien.
Bonjour.
On est honoré d'avoir un champion du monde encore après Sébastien. Il n'y a que des champions, du monde avec nous aujourd'hui. Donc champion du monde en 2024, c'est ça, de street fishing avec l'équipe de France.
Exactement, en Italie et même champion de France en 2025, donc l'an dernier.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du coup, forcément, alors Corse.
Alors non. Je suis
d'adoption.
Bordelais, on va dire.
Corse d'adoption.
J'ai passé toute mon enfance en Gironde et je suis arrivé en Corse en 2008.
D'accord, Corse d'adoption. Et du coup, la Corse, on pense tout de suite pêche en mer, les eaux turquoises, mais c'est pas que ça.
Alors exactement, moi, le raccourci que je prends, c'est que de dire qu'il y a tout en Corse. Il y a forcément en lac, en rivière, comme on connaît la plupart du temps. En mer, il y a tout ce qui est prédateur marin, barracuda, loup, anti-, mérou, céréole, même coryphène depuis peu de temps, passagale. Et il y a aussi en eau douce tout ce qui est carnassier. On a du brochet, du sandre, de la perche, même du chevesne, même du silure. Et même de l'alose, si on va vers les migrateurs, l'alose feinte.
Et vous avez des black bass, parce que je sais qu'en Sardaigne, il y a beaucoup de black bass. Est-ce que vous avez déjà des black bass en Corse?
Il y a des black
bass,
j'oublie le black bass, et effectivement, il y a aussi du black bass.
Alors par contre, descendre en Corse. Arnaud, ça c'est, faut qu'on y pense là.
Ouais, descendre en Corse. je sais qu'il y a un haut de lac de barrage, c'est ça
ouais.
C'est des grandes retenues là.
Exactement, en fait, il y a quatre lacs classés en première catégorie, en deuxième catégorie, pardon. Où il y a du cendre, dans tous les lacs il y a du cendre. Il y a même des lacs de première catégorie où il y a du cendre. Souci qu'on a eu, c'est qu'il y a des vidanges un peu mal faites. Et du coup, bon,
oui, on l'a vu sur les réseaux l'été dernier où ça a bien cuit. Alors du coup pour le street fishing, c'est quand même pas la meilleure place, en termes d'urbanisation, la Corse quand même.
Non, c'est sûr, mais comme il y a de la perche, du cendre, j'arrive quand même à garder la main sur ces pêches-là. Quand je fais de la compétition sur le continent, j'arrive à retrouver des choses, des approches un peu similaires, quelques automatismes qui me restent.
Une question, la Corse, les pêcheurs en Corse, c'est quoi? Il y a quand même beaucoup de pêcheurs locaux ou c'est surtout cet arrivage de métropolitains qui viennent pêcher en Corse? Ou il y a quand même une base solide de pêcheurs en eau douce en Corse toute l'année?
Alors, il y a quand même beaucoup de pêcheurs locaux qui pratiquent en eau douce beaucoup la pêche de la truite. Ça va être beaucoup top, un peu mouche, en plus leurre. Il reste quand même beaucoup de pêcheurs en mer. Qui sont locaux aussi, qui pratiquent le surf casting, le short jigging ou la pêche en bateau embarqué, tout simplement.
Ouais, toutes les petits poissons de roche en rock fishing aussi.
Exactement, pour les pêches les plus light et les plus abordables, ouais. Et après, oui, il y a beaucoup de gens du continent ou des touristes, hein, pour résumer, qui viennent pêcher aussi, mais c'est beaucoup l'été, c'est beaucoup concentré sur la mer. Des pêcheurs en eau douce, de truites, finalement, c'est quand même beaucoup plus des locaux, globalement, que des gens issus de l'extérieur de l'île.
Du coup, vos truites, c'est bien des souches méditerranéennes, quoi?
Alors,
vous avez une variété, vous avez une espèce rien qu'à vous?
Exactement, il y a la macrostigma, mal nommée, mais c'est la truite de Corse.
D'accord.
La truite rouge de Corse, avec des grosses taches rouges. Il y a la truite méditerranéenne aussi, qu'on trouve naturellement. Et il y a eu l'introduction de truites de souche atlantique. Ça a été fait via les boîtes vivères, ça a été fait aussi par la fédération à une époque où il fallait rempoissonner en truites parce que les milieux étaient devenus très pauvres, très pêchés. Et ça a malheureusement provoqué l'hybridation entre des souches locales et de la souche atlantique. Donc on trouve les trois souches, mais quand on s'éloigne un peu des sentiers battus, qu'on va en montagne, sur des têtes de bassin, on trouve de la méditerranéenne ou, si on a de la chance, de la vraie truite rouge, le macrostigma de Corse. C'est toujours une chance de les croiser, c'est des poissons magnifiques.
Donc Pierrick, toi, je sais que tu as pêché la carpe au Maroc, il me semble, tu as été en Espagne, tu as quand même fait pas mal de... Est-ce que tu as déjà pris une carpe en Corse?
Non, mais j'ai souvenir d'un très très vieil article dans un Carpe magazine dans les années 90, d'un reportage de quelqu'un qui racontait comment il avait déniché des carpes en Corse dans un des lacs que vous évoquiez. Et bah, je pense que ça mériterait d'aller vérifier si elles ont pu grossir un petit peu. Ouais. Mais non, je n'ai pas eu l'occasion encore.
J'ai une petite question pour le député et pêcheur. Comment, alors notamment aussi surtout le carpiste, c'est quelque chose, je me fais souvent une remarque, comment on peut expliquer que pour la carpe, on soit la destination numéro un dans le monde pour la carpe, hein, il faut savoir, il y a des Tchèques, des Polonais, des Russes, des Américains, des Anglais aussi, bien sûr, des Hollandais qui viennent pêcher la carpe chez nous parce qu'on est la mecque de la pêche à la carpe. Et pourquoi, pour le carnassier et aussi un peu les truites, pourquoi justement, nous, pêcheurs français, on va en Irlande, chez Arnaud, on s'exporte. Est-ce que c'est parce que c'est grâce avec l'Union des carpistes en mouvement qu'on connaît particulièrement bien tous les deux? Et est-ce que c'est ça où, à un moment donné, les carpistes ont su un peu protéger la carpe et les pêcheurs de carnassiers n'ont peut-être pas réussi ce...
Non, je pense que c'est aussi lié à la culture halieutique d'un certain nombre de pays. Traditionnellement, on va en Irlande pour le saumon, pour la truite. On va dans les pays scandinaves maintenant de plus en plus pour le brochet. Et c'est aussi lié à la question des biotopes qui permettent de produire les plus gros spécimens ou en tout cas des spécimens de grande qualité et en grande quantité. Et voilà, on a la chance en France d'avoir une grande diversité d'eau pour pêcher la carpe, que ce soit des lacs, des rivières, des fleuves, des étangs, et des conditions climatiques et une population de carpes très âgée dans notre pays qui font qu'on a eu des conditions pour avoir de très très gros spécimens. Ça, l'histoire a commencé avec Saint-Cassien il y a maintenant plus de 30 ans, et puis un certain nombre de grands lacs, notamment plutôt dans le nord-est de la France, qui à un moment donné, quand la pêche de la carpe a été beaucoup médiatisée à travers des revues halieutiques et puis maintenant à travers les réseaux sociaux, a fait que les pêcheurs sont aussi grégaires, et quand on voit qu'il y a des spécimens et des prises des poissons trophées qui sont pris, on a envie aussi d'y aller. Et puis on a aussi une diversité de paysages et la France est une belle destination touristique, et y compris pour le tourisme halieutique.
Avis la Corse, est-ce que tu as déjà sévi là-bas en Corse pour la pêche?
Alors, j'y suis allé en vacances en famille et j'ai compris pourquoi ça s'appelait l'île de beauté. C'est féerique. Mais malheureusement, j'étais en famille et vous savez ce que c'est. Hein, y a des divorces qui ont fini, qui ont commencé avec des cannes à pêche brisées par l'épouse qui n'en pouvait plus de ne pas voir son mari et qui devait garder des enfants. Donc, on a tous des anecdotes comme ça dans notre entourage. Je n'ai pas voulu vivre ça.
Pas encore.
Voilà, non, je préfère rester avec ma femme quand même, j'aime la pêche, mais quand même.
Arnaud ?
Non, j'ai jamais pêché en Corse.
Moi, ma femme, je m'en fous.
Alors, non, mais généralement, quand je pars en vacances, je pars pas à la pêche. C'est assez rare que
je pêche. Tu sépares la vie.
Ouais, je sépare la vie privée de la vie pro. Et puis, souvent, je pose les cannes à pêche. Donc, quand je pars en vacances, moi, c'est.
Mais vous pêchez toute l'année, donc ça compte moins.
Je pêche toute l'année, donc ça compte moins. Non, puis j'aime bien faire un petit break de temps en temps. Alors, bon, ça m'empêche pas quand même de faire une petite journée. Mais, j'ai été en Corse en famille, en vacances, mais jamais pour pêcher. Par contre, c'est pas l'envie qui m'en manquait, parce qu'il y a quand même des spots là en mer là qui donnent vraiment envie. Je sais qu'il y a des guides installés là-bas là qui font maintenant là qui font là. J'aurais bien aimé prendre un Denti en Corse. Voilà, ça viendra un de ces quatre là, mais j'ai pas encore l'occasion.
D'accord. Et du coup, Morgane, là, on est en pleine saison, ça y est, c'est ça où se pêche la Corse grâce à cette météo très clémente. Hein. C'est sûr que quand on vient de Calais, c'est un peu différent. Mais est-ce que ça pêche toute l'année en Corse? Si les gens doivent venir hors période, on va dire de vacances, quelle est la meilleure période selon toi pour un peu la mer et aussi bien l'eau douce?
Ça pêche absolument toute l'année. C'est la chance qu'on a. C'est que l'hiver, ça va être calamar, céphalopode, rockfishing, même pêche en bateau immergé. Au large. On va avoir aussi tout ce qui est pêche de la truite, forcément, sur 6 mois de l'année, sur les périodes classiques. Et entre tout ça, on a la pêche des carnassiers en eau douce, on va avoir de la pêche du bord. Du loup, du barracuda, d'autres prédateurs plus gros, tassergal, lichami, on a vraiment de quoi faire toute l'année.
Bon, on va aller tester, les carpes aussi.
Et les carpes, oui, effectivement, je ne suis pas carpiste, donc j'ai du mal à en parler, mais il y a des beaux spots à carpes, ouais, effectivement.
On attend l'invitation alors.
On attend l'invitation, voilà. Là, t'as 4 mecs, on est prêt à monter dans la voiture d'Arnaud et on descend, on est à Toulon dans 7 heures.
On peut faire ça, ouais.
Morgane, on te remercie.
Merci à vous.
À très très bientôt, Morgane. Et puis bonne chance pour les prochaines échéances de compétition. Ciao, ciao. Et on attaque tout de suite notre rubrique phare, Faut pas se leurrer. Alors, cette semaine dans Faut pas se leurrer, ben, la dernière fois, on avait la chance d'avoir Sylvain Legendre avec nous, qui nous avait raconté un bluff ou pas bluff, où Madame Sylvain Legendre, Amélie, qu'on salue, en fait, avait pêché un gitan. Donc, on a la réponse en images.
Salut à tous, et ben, c'était pas du bluff. Ma femme a attrapé un manouche. C'était dans le delta de l'Èbre à Amposta. Donc pêcher une bordure, on essayait de choper des mulets avec une cuillère en plomb de 30 grammes. Et elle a pas trop vu où elle achetait, ça s'est retrouvé au bord. Elle a vu qu'elle avait jeté trop loin mais elle savait pas où, elle a commencé à mouliner, à tirer. Et en fait, y avait un gitan qui avait ramassé la cuillère dans les cailloux, qui se l'est planté dans la main. Et qui était en train de faire un grand geste pour se libérer de la cuillère et elle, comme elle savait pas, elle moulinait. Et j'étais avec Gaël à ce moment-là, on a tous les deux par réflexe levé la tête vers le sillon et suivi la tresse des yeux. Et là on a vu un colosse d'1m90 pour 130 kg qui faisait des grands mouvements. Et voilà, ça s'est terminé comme ça, il y a un autre de ses collègues qui est arrivé, qui a arraché avec une pince. Et de mémoire on leur a offert la cuillère, ils l'ont gardée. Hein. Et on s'est sauvés.
Bon, bah sacré Sylvain, il nous a bien bluffé avec ce gitan à l'ondulante. Voilà, on ne sait pas dans les textes de loi s'il y a une taille de capture sur le gitan. En tout cas, on s'est mis tous les Lopez de France à dos. Cette semaine, c'est au tour d'Arnaud de nous raconter un bluff. Alors attention, Arnaud est très très bon. On l'a surnommé Arnaud le mytho au niveau de la bluff. Le mytho est très très bon.
Bah, écoute, je vais essayer de continuer dans la même veine. Alors, j'ai pas mal pensé.
À 36 brochet. Alors, 56 brochet. C'est
le fameux 58 en
entend. 58
brochet. écoute, je vais te dire, en guidage avec moi, j'ai un pêcheur en 2 heures de temps. Okay. Il a attrapé 4 brochets pour une moyenne de 120 cm.
Ouais. Il devait être aux étangs de la Bassée, je pense.
Sur le domaine public. Alors en Europe.
Hein. Avis, on y croit, on n'y croit pas ?
Une anecdote comme ça ?
Non. Est-ce que tu crois ou pas ?
Deux heures, 4 brochets, 4 mètres 80 brochets.
S'il était avec Richard Collet aux étangs de la Bassée, c'est tout à fait possible. Sinon,
c'est dans le domaine public. En guidage. Ouais. Non ?
Non, je veux bien aller à la pêche avec lui. Si c'est vrai, je pars avec lui quand il veut.
Un client. Thierry, bluff ou pas bluff ?
Non, je pense que c'est jouable. Pas n'importe où. Et je dirais peut-être pas en France.
Ah, il n'a pas précisé. Parce que le problème d'Arnaud, c'est ça. C'est qu'en fait, il dit tout en 5-6 fois. Donc c'est...
Non, en 5-6 fois. En guillage.
Moi, je dis bluff.
Toi, tu dis bluff ?
Ouais, je dis bluff. Là, c'est la pêche de l'année. Enfin, la pêche de la décennie. Là, du siècle. Bon. Eh ben de toute façon.
Eh ben rendez-vous.
Voilà, rendez-vous dans 15 jours. N'en déplaise aux équipes du Casar enchaîné. Voilà, on donnera la réponse dans 15 jours. Allez, on attaque tout de suite. Direction l'atelier. Alors messieurs, dans l'atelier, c'est notre rubrique technique et tactique, comme dirait Didier Deschamps, on est en pleine Coupe du Monde. On va parler de la pêche, on parle technique et matériel, et on va parler de la pêche à gratter, et pas du poil à gratter de la graine. On va parler de la pêche, on va dire, à gratter le fond, en pleine condition estivale, il fait chaud, les eaux se sont réchauffées, les poissons vont chercher un peu de fraîcheur et un peu d'obscurité au fond de l'eau. Et on va parler de cette technique de pêche à gratter qui est très très sensorielle. En fait, on essaie de gratter le fond très très lentement. Arnaud, est-ce que tu peux en parler un peu de cette pêche à gratter? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais alors sur les cendres notamment?
C'est une technique à part entière, hein, le tirer relâché, enfin l'animation en linéaire, c'est un peu une pêche à gratter. L'idée c'est quoi? C'est effectivement d'avoir une action assez minimaliste sur le fond avec la plupart du temps un leurre souple. Souvent ça se couple aussi avec l'idée de downsizing, de descendre un petit peu en taille. Donc typiquement, quand les poissons sont difficiles, quand les eaux sont très claires, quand les eaux sont chaudes, les conditions qu'on a un petit peu en ce moment, ça va être plus difficile de déclencher des poissons avec des poissons nageurs en pleine eau, par exemple, et on va avoir plus de chance en grattant le fond, comme on dit. Donc c'est quoi le matériel typique? Une petite canne, là, 5-20 grammes,
Ouais. Tresse très fine.
Tresse très fine, 10 centièmes environ, hein, selon voilà, dans ces eaux-là. Un bas de ligne fin aussi, et puis une petite tête plombée, 5 grammes, 7 grammes. Et puis après, bah, derrière, un petit shad ou un petit finesse de 2 pouces, 3 pouces, donc 5 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm. Et puis voilà, une petite action toujours en contact du leurre, avec le leurre posé sur le fond, légèrement décollé, repose sur le fond, et puis tout doucement, bah, on gratte le fond là, pour essayer d'éclencher des touches.
Avis, est-ce que ça gratte ou ça gratte pas?
Alors ça dépend, ça gratte beaucoup.
Je parlais pas de la robe de
non, j'avais bien compris. En street fishing, la technique reine, c'est quand même le drop shot. Le drop shot, un plomb au fond, quelques centimètres au-dessus, effectivement, un leurre ou du ver de terre. Moi, j'aime bien utiliser le ver de terre.
Ah, des appâts naturels
Les appâts naturels, ça permet de toucher beaucoup plus large. Ouais,
rien de vaut la viande.
Avec le ver de terre, on peut effectivement toucher la perche. C'est ce qu'on va toucher le plus souvent. On peut toucher du cendre, des petits brochets. Mais on peut toucher aussi des anguilles, des belles brèmes. Enfin, on peut avoir des belles surprises, du chevesne, évidemment. Donc voilà, c'est essentiellement le drop shot. Mais parfois, je fais aussi la bonne vieille cuillère. Écoutez, dans la scène, la bonne vieille cuillère. On attrape des perches. Parfois, on peut tomber sur un petit brochet. C'est sympathique.
Ondulante ou tournante?
Ondulante.
Et toi, Arnaud, la pêche à gratter, c'est quoi un peu l'animation? Tu tires, tu grattes, alors, fais des grosses pauses
J'ai tendance à faire des bonnes pauses. Moi, je pêche assez vite. J'aime bien les pêches assez rapides, un peu en mode anti-préaction. Donc, en animant avec ma canne, je donne deux coups de poignet et je fais un tour de manivelle en même temps.
Avec une pause.
Et puis ensuite, on attend que le fil, enfin, on voit le fil fendre l'eau. Et puis, quand la tête plombée ou quand le leurre touche l'eau, la tresse se détend. Donc voilà, c'est une succession de tirer et de pause. La deuxième technique possible, c'est effectivement canne basse et tout au moulinet, avec deux, trois tours de manivelle de moulinet, tout doucement là sur le fond. Et puis une bonne pause. Donc c'est toujours pareil. La tresse qui se détend, en fait, signale. Parce qu'il faut avoir des cannes qui soient extrêmement sensibles et avec une tête plombée. Si le fond n'est pas très très dur, qu'on a une tête plombée qui est légère, c'est difficile de sentir le toc de la tête plombée qui se pose au fond. Donc la tresse, c'est un bon indicateur visuel. Voilà. Et puis après, bah, souvent, en fait, dans cette pêche-là, le truc, c'est de trouver la bonne vitesse d'animation, le bon temps de pause. Il ne faut pas hésiter à faire des pauses sur le fond. Je pense notamment aux grosses perches qui ramassent beaucoup des leurres immobiles sur le fond. Ouais. Voilà. Après, bon, moi, j'ai parlé tout à l'heure de tête plombée et de leur souple, mais on peut le faire. Ça peut être le dead rig.
Hein. Oui, bien sûr.
Ça peut être
dead rig, un drop shot.
Ça peut être le drop. Ça peut être, voilà, il y a plein de choses. Hein. Ça peut être en Carolina. Ça peut être, il y a plein de façons de gratter.
Et aussi, on a parlé de cendre perche avec Avi et toi. Et ça marche aussi sur les bars, les poissons de roche, les loups, la pêche à gratter du bar en bordure au moment de l'étal. Là, quand il n'y a plus du tout de courant.
Bien sûr,
on va gratter les quelques poissons qu'on peut prendre quand il n'y a plus de jus, quoi.
Ça marche très bien dans les cailloux en mer. D'ailleurs, on parlait de street fishing tout à l'heure, on parle de rock fishing.
Oui, bien sûr. Morgan aurait pu nous en parler. En Corse, c'est the place pour tous les petits poissons de roche.
Ça fonctionne. Et après, comme c'est très souvent, on utilise des petits leurres. On va toucher une myriade d'espèces. Hein. On peut toucher tous les carnassiers. On prend beaucoup de chevesnes comme ça. Aujourd'hui, je pense à la Seine. Il y a des ides, il y a des aspes. Il y a moyen de prendre plein d'espèces. Donc, c'est un bol anti-bronze. Nous, surtout quand les conditions sont difficiles et surtout en été.
Pierrick, la pêche à gratter. À la carpe, c'est compliqué.
Ouais. Non, c'est pas la technique qu'on utilise le plus. Bon, ouais, nous, on pêche par définition.
Pêche un peu souvent, l'heure un peu quand même.
Ouais, mais de manière, pour m'occuper quand les touches se font rares. Après, bon, voilà, quand on pêche la carpe, on pêche très généralement à fond ou très près du fond. Voilà, légèrement décollé. On a un avantage par rapport à d'autres pêcheurs, c'est que nous, on a parfois la possibilité de pêcher la nuit et qui permet notamment dans les périodes un peu compliquées et notamment en période de canicule d'avoir des moments un peu plus propice à l'alimentation des poissons. Voilà, donc ça nous permet de compenser.
Bon, nous, la pêche de nuit à gratter, c'est interdit, hein, on le rappelle.
Ah, officiellement, c'est interdit.
Et justement, en fait, comment ça se passe, on va dire, au niveau de l'hémicycle et des commissions, justement, pour essayer de faire avancer des idées. Alors, on sait que, voilà, là, il y a la pêche de la carpe de nuit, il y a aussi cette problématique du vif, en fait, où on est quand même pas mal attaqué. C'est quoi, on va dire, le rôle, comme ça, d'un député dans cette commission pêche et chasse, notamment vis-à-vis de tous ces lobbies contre et autres véganisme et autres anti-spécistes?
C'est déjà d'essayer de promouvoir le dialogue et la connaissance partagée des arguments des uns et des autres. notre ami avocat l'évoquait tout à l'heure, il y a des attaques aujourd'hui vis-à-vis du loisir pêche qui viennent vraiment d'une profonde méconnaissance à la fois de ce qu'est la pêche et puis d'un certain nombre aujourd'hui d'activités. On voyait tout à l'heure un guide avec des enfants dans les écoles de pêche. Enfin, c'est pour moi quelque chose de, voilà, vraiment fondamental, ça a une valeur inestimable. On parlait aussi de la capacité, voilà, du loisir pêche vraiment à permettre de déconnecter, de se ressourcer et tout simplement encore une fois de reprendre un petit peu de confiance et d'oxygène dans une période où notre société va à très vive allure. Donc c'est extrêmement important et donc d'essayer de faire un peu de la pédagogie et tout simplement on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas et puis après voilà, il y a des arguments à opposer mais moi je ne renonce pas à la capacité de convaincre dans le dialogue et effectivement j'ai eu déjà l'occasion moi d'amener à la pêche des personnes qui étaient farouchement opposées au principe même et quand on voit voilà, tout ce qu'on peut faire à la pêche, tout le plaisir qu'on peut en retirer, bah, on arrive voilà, à convaincre les plus sceptiques mais il y a effectivement du travail. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on travaille sur la manière dont on communique, la manière dont aussi on se met en scène quelque part. Il y a un certain nombre d'images qu'on ne doit plus voir aujourd'hui je pense dans le monde de la pêche mais voilà, c'est un travail de longue haleine, un travail de conviction.
Bon, puis avec tous ces jeunes au bord de l'eau qui font notamment du street fishing dans la capitale ou dans les grandes agglomérations, je pense que nos députés et les instances voient bien que voilà, il y a quand même des pêcheurs, il y a un renouveau. Je vais en revenir juste avant de terminer sur la pêche à gratter. Est-ce que quelqu'un fait un peu de pêche à gratter en mer? Pas trop. Toi Arnaud, un peu en Irlande, les lieux, genre de choses.
Oui, on fait des vacances. Alors bon, c'est plus vraiment. Enfin après, c'est plus de la pêche à la volée en fait. Hein. On est au-dessus du fond parce qu'il y a beaucoup de laminaires, beaucoup d'algues, beaucoup de végétation sur le fond. Donc il fallait pas trop gratter. Mais
ouais, c'est ça le problème de la pêche en mer à gratter, c'est que c'est des micro-leurres, souvent en texan ou alors des
on pêchait pas du bord, on pêche en bateau, donc ouais. On est un petit peu loin. Après, le rock fishing, c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais pratiqué. Donc
ou alors si on cherche de la sèche. C'est une pêche très amusante, pêcher la sèche en bord de mer, près des rochers. C'est en quelque sorte une pêche à gratter, puisqu'on met un leurre qui ressemble à une crevette et on le tapote sur le fond pour faire sortir du sable les sèches.
Ah ouais, ça c'est top.
Ça c'est assez sympathique.
Et plutôt quoi, donc un peu partout, plutôt la Méditerranée pour le coup ou
Plutôt la Méditerranée, en bord de mer, près des rochers, là où il y a les sèches.
De toute façon, on le voit bien maintenant, il y a de plus en plus, même dans les ports, on voit des jeunes qui pêchent avec des leurres à sèche ou des leurres à encornée, là, des turlutes avec un plomb et on les voit souvent dans les ports le soir, la nuit, pour pêcher toutes ces espèces. Eh ben écoutez, merci. On va passer tout de suite avec la rubrique Au bout du fil avec un auditeur. Alors, sur RMC Pêche, on adore les belles histoires. On en a la preuve avec vous. Et aujourd'hui, au bout du fil, on a Benoît. Bonjour Benoît.
Comment ça va?
Eh ben très très bien Benoît. Présente-toi, tu es à quel âge? Tu nous viens de où?
J'ai 39 ans et je viens du Var, à Fréjus.
Ah, et là, le soleil.
Eh oui.
Alors Benoît, toujours on est tout oui. Tu as une belle histoire à nous raconter, ou une anecdote de pêche.
Ah, c'était sur la truite lacustre. C'était au début d'année, à l'ouverture de la truite. Et c'était au mois de mars. J'étais dans un grand lac alpin. À la base, j'étais avec mon père qui était venu passer des vacances chez moi et lui, il adore pêcher le brochet. Du coup, il avait calé des cannes pour pêcher le brochet. Et je sais que dans ce lac, il y a des truites lacustres énormes, mais elles sont assez peu communes. Et les seuls qui arrivent à en attraper une de temps en temps, c'est genre au live. Et au bord, il n'y a personne qui les pêche. Et l'année dernière, j'avais pêché en Islande la truite et il y avait une technique qui marchait super bien, c'était avec une ondulante. Et je me suis dit que ça allait sûrement marcher dans ce lac-là. Et du coup, j'arrive sur le spot. On a calé les cannes pour pêcher le brochet. Parce que le brochet, il est ouvert toute l'année là-bas. Et du coup, je fais un lancer, premier lancer. Hein. Avec la cuillère, je la laisse couler. Là, je fais quelques tractions. Je la relaisse couler. Et là, départ énorme. Un énorme rush. Et là, zzzz. Et voilà, c'était une énorme truite lacustre. Je l'ai su dès le début. Elle m'a fait un super combat. Ça a duré 8 minutes. Et quand je l'ai ramenée au bord, en fait, je vois qu'elle était piquée par la nageoire ventrale.
Oh là,
et c'est pour ça qu'en fait, elle me semblait énorme. Je pensais que j'avais une truite fermette, en fait.
Ça, c'est une belle histoire. En plus, avec le papa, c'est génial, ça. Ça, c'est un souvenir à raconter au coin du feu pendant des décennies, des décennies.
Ah, et donc,
elle faisait combien finalement cette truite?
Elle faisait 75-76 et 4,6 kg.
Ah ouais, magnifique poisson.
Après, il y en a des beaucoup plus grosses à ce qui paraît là-bas. Mais...
Ouais, ouais, ils ont des.
Mais c'est déjà une grosse, quoi.
Ouais, très très beau poisson. Benoît, bah, félicitations à toi. Arnaud, je pense que ça mérite un petit cadeau.
Ah ouais, ça mérite un moulinet, bien sûr. On va le faire le moulinet 4000 de la marque, mais je n'ai pas le droit de dire le nom.
Donc voilà, tu as un magnifique moulinet taille 4000 en spinning pour pouvoir justement continuer sur ta lancée pour prendre des grosses lacustres. Parce qu'il leur faut des vrais moulins quand même pour les lacustres. Il faut des vrais moulins.
Là, tu pourras y aller. Ouais, bah, pour vraiment ça, belle. Bravo,
surtout
c'est un
quand
tu
les attrapes par un nageoire.
Tu fais le drapeau derrière. Benoît, un grand merci à toi. Si vous voulez, comme Benoît, nous témoigner des anecdotes, vous allez sur Direct Studio au 3216 sur la touche 5, WhatsApp au 0612 424 424 avec le hashtag pêche et vous serez parmi nous comme Benoît pour nous raconter votre belle histoire. Benoît, un grand merci à toi.
Eh bien, merci à vous.
Bonne saison journée. À toi.
Merci, eh bien,
messieurs, c'est salut. Déjà la fin. Presque la fin. Alors, on est en actu foot juste rapidement pendant qu'on est on est chez RMC au niveau foot. Une finale potentielle à vie ?
Non, non, moi, mes enfants, regardez pour moi. Je les entendais dans la chambre à côté.
Non, t'as pas de pronostic pour la finale ?
Ah non, finale, je suis pas du tout
du
foot.
Tout foot. Moi non plus, mais bon.
Je suis un pêcheur.
Pêcheur, d'accord.
La même chose.
D'accord. Arnaud, l'Irlande n'est pas qualifiée. Malheureusement, ils ont perdu.
L'Irlande n'est pas qualifiée, si tu le dis. Ouais, je sais pas, je crois qu'il y a plein de monde. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, je pense que les grands seront au rendez-vous comme d'habitude. Je vois bien la France en finale quand même.
D'accord. Pierrick, un peu plus foot ?
Oui, oui, moi je suis un grand passionné de foot comme tout Stéphanois qui se respecte. Je viens de Saint-Etienne et voilà, le choix du cœur, ça serait une finale France-Portugal.
France-Portugal, bon. Je pense que c'est les deux belles équipes mondiales. Hein.
Ouais. Allez, une finale européenne alors.
Ouais.
Bon, bah, messieurs, Avi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette belle saison et ces vacances qui arrivent, un peu de pêche pendant ces vacances ?
Oui, oui, la famille c'est bien, mais quand même, hein, ouais. je vais pêcher un petit peu. Je vais essayer de trouver un petit moment pour passer un week-end.
Est-ce que la vie judiciaire s'arrête un peu l'été ?
Et oui, au mois d'août, il y a les vacances judiciaires. D'accord. C'est pour ça que tous les avocats partent en vacances au mois d'août. Bon, mon cabinet ne ferme pas au mois d'août parce que malheureusement, l'été, c'est aussi une période où il y a beaucoup de licenciements qui se trament, qui se montent dans les entreprises. Donc mon cabinet n'est pas fermé pendant l'été. Mais effectivement, au mois d'août, je pars un petit peu, mais il y a mon équipe qui reste...
Voilà.
Aux aguets.
Il faut donc... être pêcheur pour intégrer ton équipe.
Non,
l'entretien d'embauche.
Ah non, ça restreindrait le recrutement.
Je ne sais pas, c'est dommage. Ça va pas.
Ça restreindrait le recrutement.
Alors, si vous recherchez des astuces, notamment au niveau du droit du travail, je vous invite à aller suivre Avi sur ses réseaux, comme 1 800 000 personnes. Il donne plein d'astuces au niveau du droit du travail. Arnaud, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Tu pars
je pars aux Pays-Bas, là, Pays-Bas ouais. Voilà, pour une bonne session guidage. Là. Donc, pas trop de canicule, un peu de vent, tout ira bien.
Voilà, pas trop de cyanobactéries non plus.
Ouais, j'ai peur de ça. Ouais.
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 Pierrick ?
Un peu de temps, effectivement, pour déjà voir la famille.
Il y a des vacances parlementaires qui arrivent.
Ouais, le 25 juillet. Donc c'est pas pour
maintenant. Ouais.
Et puis, un petit peu de temps pour aller à la pêche aussi, même si le mois d'août, c'est pas forcément la meilleure période. Mais moi, tout ce que je peux prendre, toutes les nuits que je peux gratter, je gratte.
D'accord. Et voilà. En tout cas, un grand merci de nous représenter dans l'hémicycle, les pêcheurs et les chasseurs. On a besoin de forces vives en interne pour promouvoir notre beau loisir. Messieurs, un grand merci à vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, les 5 lettres. Ciao, bye bye.
Ciao.